Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et ce matin, notre invité dans la matinale est Vincent Lambert. Il est président de la coordination rurale des Côtes d'Armor. Nous allons parler d'agriculture au micro de Bretagne 5. Ce matin, il est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors Vincent Lambert, on va évacuer tout de suite la question concernant la coordination rurale. On vous dit proche du Rassemblement national. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ?
Ben, c'est pas vrai. La coordination rurale, depuis maintenant une grande semaine, c'est vrai, un peu le bouc émissaire de tout ce mouvement. Pour nous, c'est peut-être une bonne chose finalement, c'est qu'on a beaucoup vu le bonnet jaune sur les routes, au salon de l'agriculture. Mais la coordination rurale, on est loin d'être proche du Rassemblement national. Pour revenir un petit peu à l'histoire de la coordination rurale, ceux qui ne la connaissent pas, la coordination rurale existe depuis maintenant une trentaine d'années. Elle a été créée dans les années 91-92 par des membres du syndicat majoritaire, qui justement, n'étant pas d'accord avec cette réforme PAC, justement, c'est pas le dire, mais les appartenances de syndicats majoritaires plus proches de la politique et de l'économie coopérative étaient souvent sous influence. Ces gens-là, ne voulant plus de tout ça, ont décidé de créer la coordination rurale. Et l'histoire leur donne quand même raison aujourd'hui, parce que 30 ans après le choix des primes PAC, ils avaient une vision en se disant que ça allait tirer l'agriculture et les revenus des agriculteurs vers le bas. 30 ans après, on voit que les gens sont mécontents, que, je pense, l'histoire leur a donné raison. Donc l'appartenance avec le Rassemblement national, non. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement tente peut-être de mettre un peu de l'huile sur le feu en stigmatisant la coordination rurale, faisant peur aux citoyens, comme quoi on est des casseurs ou autre. Mais c'est loin d'être le cas. Les gens qui manifestent depuis un mois et demi chez nous, c'est des gens qui ont leur travail à la maison encore. C'est des gens que soit les parents font le travail le soir, le matin, soit les enfants le font aussi avant d'aller à l'école, après l'école. C'est des gens, le travail d'un agriculteur, ça ne s'arrête pas pendant 5 semaines parce qu'on a décidé de manifester. Ces gens-là, s'ils vont sur le terrain, c'est qu'ils ont un mal-être, ils ont des choses à revendiquer. Et ça, on n'est pas naïf. C'est pas un rattrapage politique qui va faire entendre nos revendications. Sinon, ça fait longtemps que nos revendications ont été entendues. Je pense que pour que les choses avancent, il faut que ce soit l'ensemble de la classe politique qui se prenne les bonnes questions et qui prenne les bonnes décisions en se disant l'agriculture, depuis 30, 40 ans, on n'est pas dans le bon chemin. Cette Europe, ces choix européens, toutes ces importations, ces libre-échange, c'est pas forcément ça qui va sauver l'agriculture française. Et l'agriculture française, je pense que c'est quand même la plus belle agriculture au monde aujourd'hui. Ça fait des années que nos parents, nos grands-parents font des efforts pour justement avoir une agriculture de plus en plus saine, de plus en plus familiale, qui reste familiale surtout, parce que ailleurs dans le monde, c'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, on voit quand même que les agriculteurs tentent de transmettre au maximum leur exploitation. Donc c'est quand même une chance qu'on a en France, et ce que la coordination rurale défend.
Alors la coordination rurale était présente au salon de l'agriculture qui vient de fermer ses portes avec une légère baisse de fréquentation, nous dit-on. On a vu est-ce qu'on peut dire chahut, cette colère des agriculteurs lors de l'inauguration par Emmanuel Macron de ce salon de l'agriculture. Comment vous avez vécu cela ?
Bon, on l'a tous vu, c'était prévisible. Je pense que c'était annoncé les semaines avant le salon. Il y a eu une demande qui avait été faite que M. Macron ne vienne pas au salon de l'agriculture. M. Macron a fait le choix de venir, ce qui peut-être a entraîné tous ces mouvements de panique. Mais c'est vrai qu'il y a eu un chahut le jour de l'inauguration du salon. Mais je pense que c'était nécessaire pour faire prendre conscience aux politiques que l'agriculture va mal, que les agriculteurs... c'est bien le salon, de montrer ce qu'on fait, ce qu'on produit, mais il y avait un mal-être, il fallait l'exprimer. Après, peut-être que médiatiquement, il y en a eu plus de montrer que ce qui s'est vraiment passé. Je ne crois pas qu'il y a eu vraiment de heurts violentes.
On a vu beaucoup de CRS. Hein. Certains ont dit qu'il y avait plus de poulets au salon de l'agriculture cette année. Voilà, je laisse la responsabilité de la phrase à ceux qui l'ont prononcée.
Oui, je pense qu'il y en avait plus que les autres années, mais... Je pense que les E, on a dit que les gens étaient là pour casser, ou non, c'est pas vrai. Les gens étaient juste sûrement là pour exprimer un mécontentement, mais pas aller jusqu'à là. Vous savez, il y a des gens de chez nous, comme d'autres syndicats, qui étaient là avec leurs enfants, donc... on va pas avec nos enfants pour manifester si c'est pour aller... Puis l'agriculteur s'est toujours senti proche des policiers ou de la gendarmerie ou même des CRS. On n'est pas là pour ça.
Emmanuel Macron a voulu parler avec les agriculteurs. Il y a eu ce meeting, ce rendez-vous, ce débat, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Il a essayé d'apporter des réponses, il a eu des mots directs. On a parfois dit que c'était un peu cru comme langage présidentiel. Est-ce que ça a apporté des réponses, ce rendez-vous avec le président, ou pas du tout?
Pour ma part, non. Je ne pense pas. C'est vrai que depuis maintenant 3-4 semaines, on a beaucoup d'annonces. Hein. À chaque fois qu'il se passe vraiment quelque chose, on a des annonces. Aujourd'hui, il faudrait surtout du concret et des actes. Parce que des annonces, à chaque fois qu'il y a quelque chose, ou... bon, les annonces, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Justement, je vais ce que vous disiez, des mots un petit peu crus. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est de voir un président transpirant, retroussant ses manches, ouvrant sa chemise pour discuter avec des agriculteurs, même utiliser des mots qu'un président ne doit pas utiliser. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu M. Macron utiliser ces mots en discussion avec les gens du CAC 40 ou même avec M. Poutine il y a 2 ans. Pour moi, c'est une forme de mépris du métier.
Il a voulu faire peuple quelque part, c'est ça un petit peu l'idée?
C'est pas ça qu'on lui a demandé. Aujourd'hui, on lui a demandé de prendre les mesures et l'importance du problème agricole. S'il y a des agriculteurs qui se suicident tous les 2 jours, si les exploitations sont difficiles à reprendre, si des agriculteurs qui ne se tirent pas de salaire, je pense qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme. C'est pas en retroussant ses manches ou en parlant un peu familièrement avec les agriculteurs qu'on va régler les problèmes.
Il y a eu Gabriel Attal qui est venu 2 fois au salon de l'agriculture et qui lui aussi a été porteur de beaucoup d'annonces. Là aussi, ça ne vous a pas convaincu?
Non. Non, non, on a vu les annonces. Bon, il est venu au salon, mais ça avait commencé avant sur les barrages d'autoroute. Non, je pense que ça fait maintenant 3 semaines, 1 mois, on n'a pas vu grand changement dans les exploitations. Beaucoup d'annonces. Bon, on a vu les dernières là, qui étaient plus ou moins quand même intéressantes, c'est-à-dire sur le fait de rentrer les banques dans le système un peu. Mais est-ce que c'est pas justement le gouvernement qui se défausse sur les banques en disant aujourd'hui apporter des taux d'intérêt? Mais ça reste encore une annonce. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est à partir de quel moment l'agriculteur va avoir droit à ses prêts bonifiés ou à ses prêts à taux zéro. S'il faut attendre un bilan comptable fin d'année prochaine pour pouvoir présenter à son banquier en disant ben voilà, nous la situation elle est critique, où on a besoin d'un prêt de trésorerie, s'il faut attendre ça, c'est encore 8, 9 mois, 10 mois d'attente. Alors, toutes ces annonces qui vont se faire dans 8, 9, 10 mois, on nous dit qu'il faut le temps. Je pense que si le gouvernement ne s'est pas rendu compte que là, il fallait agir tout de suite, il fallait des mesures concrètes maintenant, dans les 3-4 semaines. Ce serait compliqué.
Il y a une posture politique à l'approche des européennes, selon vous, par rapport au monde agricole, de la part du monde politique?
Bien évidemment. Le salon de l'agriculture, cette année, on a vu que c'était plus ou moins le salon quand même de la préparation aux européennes.
Il fallait être vu au salon de l'agriculture.
Il fallait être vu, tout le monde est passé. Justement, la coordination rurale, on a reçu tout le monde. Toute personne qui en a fait le souhait ou la demande a été reçue, hein, parce que c'est justement ça, la coordination, on est libre, on est attaché à personne, tout le monde a droit d'emmener ses idées, et tout le monde doit justement, chaque personne qu'on rencontre peut monter nos idées au gouvernement, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'on a vu que ce salon, ça a été un salon de préparation aux européennes. Tout le monde a voulu rencontrer les syndicats agricoles parce que c'était bien d'aller voir les syndicats agricoles, de comprendre la misère agricole. Mais ce qu'on n'a pas envie non plus, c'est que cette misère agricole, elle serve Parce que les hommes politiques, on sait que pour arriver au pouvoir, peu importe le moyen, il faut arriver au pouvoir.
C'est une forme de communication, finalement.
C'est ça, c'est ça. Donc je n'ai pas envie que la misère, moi, et la coordination générale, n'a pas envie que la misère à l'école serve à ces gens-là pour, justement, pour arriver à leur fin.
Il y a une grande désespérance hein, du monde agricole. On a vu ces agriculteurs, ces paysans, et vous en faites partie, dignes défiler, bloquer la circulation, entrer dans Paris, là ça a quand même fait quelques vagues, mais plutôt très bien perçu par l'homme, par la femme de la rue, des encouragements, des applaudissements. Est-ce que pour vous c'est important que les Françaises et les Français soient à vos côtés dans vos revendications, dans vos demandes?
Bah bien évidemment. Aujourd'hui, le but des agriculteurs, syndiqués, non syndiqués, qui a manifesté, qui a exprimé son ras-le-bol, en quelque sorte, c'était pas d'aller à Paris pour casser des choses, c'était pour montrer justement à la population, aux consommateurs, que tous les jours on se lève pour travailler, pour produire, pour mettre à manger dans les supermarchés, mettre à manger sur les marchés, mettre à manger dans les cantines. Et qu'on n'est pas payé pour apporter tous ces produits, pas à la juste valeur que... Alors peut-être que nous, on n'est pas payé, peut-être que le consommateur paye ce produit aujourd'hui assez cher. Justement, ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est qu'il y a peut-être une transparence qui n'existe pas entre la rémunération du producteur et le coût au consommateur dans les grandes surfaces ou ailleurs. Et l'intérêt pour nous n'était pas de nous mettre la population à dos. Population, ce sont nos clients tous les jours. C'est eux qui consomment. Et il fallait que ce soit fait proprement. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au maximum, même si quelquefois, il y a pu y avoir quelques débordements. Vous savez, il y a des gens, ça faisait 15 jours, 3 semaines qu'ils étaient sur les barrages, fatigués. Et ça a été des petits débordements. Tout a été fait dans la sécurité au maximum. Malheureusement, on a tous cet épisode tragique sur l'autoroute en début de mouvement. Et c'est dramatique.
Alors, un mouvement qui continue, on va en dire un petit mot tout à l'heure à la fin de l'interview, un mouvement qui n'a pas pour l'instant obtenu de réponse claire et précise. Alors, on a eu quelques propositions sur la loi Egalim, sur les prix planchers, ça a été évoqué par le Premier ministre. Est-ce que la désespérance peut conduire à autre chose, à une plus grande colère encore, si les revendications ne sont pas satisfaites?
C'est possible. Aujourd'hui, c'est vrai que les agriculteurs, quand on discute avec eux, nos adhérents nous disent alors qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'on nous promet. Souvent, c'est le mot promesse qui ressort. On n'a pas toujours les réponses et on se doit de donner les réponses les plus vraies possibles à nos adhérents. Hein.
Est-ce que le monde politique, justement, je vous coupe, hein, pardonnez-moi Vincent Lambert, mais est-ce que le monde politique est déconnecté du monde rural aujourd'hui? En tout cas de la ruralité, de ce qu'on appelle parfois dans les états-majors la France profonde, Kelvin Hameau?
Ah, pour moi, personnellement, totalement. Oui. Je les appelle souvent les qui sont hors sol, quoi. Ces gens-là, malheureusement, ne comprennent pas vraiment ce qui se passe dans les exploitations. C'est difficile pour eux de se rendre compte. On va pas leur demander de vivre un mois avec nous, ça va être très dur. Mais certaines familles qui c'est souvent dans les exploitations les plus en difficulté, c'est souvent le salaire de la conjointe, hein, qui sert à faire vivre l'exploitation. Et dans un premier temps, ça se passe comme ça. Et si vraiment on n'arrive pas à régulariser la situation, on sait souvent que ça peut conduire à des choses plus dramatiques, voire à des séparations dans des couples ou même plus encore plus dramatique, des gens qui passent à l'acte et des familles détruites, tout ça à cause d'une activité que les gens font avec passion, parce que l'agriculteur c'est un passionné. Hein. Toute personne qui reprend une exploitation, qu'elle soit familiale ou hors cadre familial, on s'installe dans l'agriculture, je le dis souvent, c'est pas pour devenir riche, sinon on fera autre chose.
C'est un métier de passion.
C'est
finalement
un métier de passion. On fait beaucoup d'heures, on aime les animaux, on aime la terre, peu importe ce qu'on fait, ou les plantes, il y a tout le monde. Hein. Mais si on n'est pas rémunéré un minimum pour pouvoir vivre par rapport à toutes les concessions qu'un agriculteur fait, c'est là que ça devient compliqué. Et au-delà de ça, il y a même... Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est bien perçu par la population. Je n'ai pas besoin de revenir très très longtemps en arrière. pour quand je dis vous, les médias, pas forcément vous, hein, Bretagne 5.
Non, non, mais la parole est libre.
Ou sur les plateaux télé, on considérait encore l'agriculteur comme un pollueur. Et je pense que les agriculteurs, depuis 30, 40 ans, font tous les efforts qu'on leur a demandé, le maximum, parce que ceux qui ne l'ont pas fait sont plus là, hein, on ne les a pas laissés continuer. Que ce soit sur les mises aux normes, que ce soit sur le bien-être animal, que ce soit sur les phytosanitaires, la réduction des phytosanitaires, les façons de travailler différemment. Aujourd'hui, ce qui est pour moi malsain dans l'agriculture, c'est que l'agriculteur il ne maîtrise ni son prix de vente, ni ce qu'il produit. Aujourd'hui, un agriculteur qui veut s'installer passera évidemment par la case banque. Et la case banque va tout d'abord lui demander un contrat soit d'intégration, soit un contrat de reprise. Et à ce moment-là, tout le monde rentre dans la grande messe. C'est-à-dire, tu vas produire ça, tu vas produire comme si, et là, on va te prêter de l'argent. On va les voir, ils vont te donner un contrat. Et c'est là qu'on se rend compte que l'agriculteur, il commence déjà à avoir des chaînes, à peine l'installation. Et justement, quand il a fait tous ses choix, et qu'on lui a mis des chaînes, et que quelques années plus tard, on lui dit, oui, mais ce que tu produis, finalement, le consommateur n'en veut pas, quoi. C'est trop cher, ou ça ne correspond pas à ce qu'on sait vendre aujourd'hui, il n'y a pas assez de consommateurs. Mais oui, mais... Là, l'agriculteur se dit, moi, j'ai été trompé, quoi. Et aujourd'hui, il se rend compte que beaucoup de gens sont... Dans ce cas-là, l'agriculture biologique, c'était une bonne chose, c'était une niche, on a peut-être fait trop.
Oui, enfin, aujourd'hui, elle est en difficulté.
Aujourd'hui, elle est en très grosse difficulté. Et justement, je n'ai pas besoin de revenir très très longtemps en arrière, 5-6 ans en arrière, beaucoup de mes collègues qui se sont installés, on leur a dit, prends... Si tu veux t'installer, si tu veux qu'on te finance, va dans cette ligne-là, le bio va marcher. Et de ce marché de niche, on a fait un marché de surproduction. Et aujourd'hui, on met encore des agriculteurs en difficulté, alors que ce n'est pas vraiment eux qui ont choisi cette filière-là. Je veux dire qu'il y a certains agriculteurs bio qui ont vraiment la fibre bio et qui aujourd'hui, justement, ne veulent plus qu'on continue d'installer des gens qui n'ont pas forcément cette fibre-là, parce que l'agriculture biologique, c'est une bonne agriculture, mais l'agriculture française, l'agriculture locale, l'agriculture conventionnelle, l'agriculture raisonnée, parce qu'il n'y a pas d'agriculture intensive en France. Hein, ça n'existe pas, l'agriculture intensive.
Et pourtant, on en parle beaucoup quand on parle de la Bretagne. On entend les associations, souvent, qui dénoncent les fermes usines, les concentrations de porcs ou de volailles. Voilà, on a ce terme d'agriculture intensive.
Oh oui, l'agriculture intensive, ou ferme usine.
Ou ferme usine, voilà.
Différente. Pour moi, la ferme usine, ça a été. C'est une pure invention médiatique, ça. Ferme usine en France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faudrait emmener ces gens, justement, qui imaginent la ferme usine, les emmener en Europe du Sud, voir les élevages porcins, les envoyer en Europe de l'Est, voir les élevages avicoles, ou ailleurs dans le monde pour le lait. Ils comprendraient ce que c'est une ferme usine. Aujourd'hui, on a des exploitations familiales. Que des exploitations familiales. Et on veut justement, nous, le gouvernement nous fait aussi penser qu'il voudrait la même chose que nous, mais c'est dur de se battre en ayant une exploitation familiale, justement, de taille. La moyenne d'une exploitation française, aujourd'hui, je crois que c'est 70 hectares, 75 hectares.
Alors, quand justement, aujourd'hui, vous travaillez dur pour finalement des petits salaires indécents, il faut bien dire le mot. On a entendu des agriculteurs qui disaient, moi, à la fin du mois, quand j'ai tout payé, il me reste 300 euros. Donc, évidemment, on ne peut pas vivre aujourd'hui avec 300 euros en France. Et que vous voyez finalement qu'on parle d'importation, on parle de viande chilienne, on parle des fameux poulets ukrainiens. Est-ce que vous vous dites que là aussi, il y a deux poids, deux mesures?
Bien évidemment, ça revient à ce que je vous disais. L'agriculture française a fait le maximum pour justement, sociétalement, faire tout ce qu'on demandait, et écologiquement aussi, puisque l'agriculteur... D'ailleurs, quand on demande aux Français s'ils pensent que c'est l'agriculteur ou autre chose qui est gardien de l'écologie et du système... bien-être de la planète, le citoyen pense que c'est quand même l'agriculteur. Donc,
de plus proche de la nature, finalement. Bah,
c'est nous. C'est nous. Et je pense que, allez, 99% des agriculteurs sont dans cette optique-là. Donc, c'est vrai qu'on a fait tout ce qui était demandé, au moins le maximum, et qu'on se dit que, finalement, on a été trompé. Parce qu'on produit certainement moins, certainement mieux. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vendre notre produit au prix qui ferait qu'on pourrait être rémunéré, parce qu'on fait que, pas plus tard que la semaine dernière, quand M. Macron dit qu'il a compris la misère agricole, se permet de signer encore un accord avec le Chili, semaine dernière. Alors, on nous parle de clause miroir, je crois qu'il n'y en a même pas eu dans cet accord. Puis, personnellement, la clause miroir, il faudrait déjà qu'on la comprenne.
Double discours, là aussi.
Tout à fait, double discours. Mais ceci est peut-être le fait d'avoir... Pour moi, l'agriculture, la nourriture, c'est un produit de première nécessité, ça n'a rien à faire dans les accords de libre-échange. La nourriture, c'est important, c'est un produit de première nécessité. Qu'on aille vendre des Airbus où on veut dans le monde, mais l'agriculture, et ce qui est d'autant plus dommage, c'est que je ne suis pas sûr que tous les consommateurs se rendent vraiment compte aujourd'hui pourquoi sont signés ces accords, en fait. C'est souvent pour avoir des voitures électriques dans la cour, ou c'est pour avoir un smartphone un peu moins cher, ou c'est pour avoir autre chose. Alors, le citoyen, il a l'impression qu'en branchant sa voiture, le lundi matin électrique, il a fait un geste pour la planète, mais en attendant, on a détruit la planète bien davantage que l'agriculteur qui a été épandre un peu le lisier le vendredi après-midi ou jeudi après-midi. C'est ça qui m'insurge un peu, c'est de ne pas voir les gens... voir les gens justement manifester contre nous quand on épand un peu de lisier ou autre chose, ou un agrandissement d'exploitation pour devenir justement rentable, parce que c'est pas pour devenir intensif, c'est pour devenir rentable, qu'on voit ces gens manifester contre nous, et que par contre ces accords de libre-échange, ça n'offusque personne, c'est là que je voudrais voir les associations. Mais peut-être que c'est dur pour tout le monde de comprendre.
Avec les associations, justement, il y a eu ce coup de colère, là encore, du monde agricole, et ça nous ramène au salon de l'agriculture avec ce bruit qui a couru. Alors, on ne sait pas qui l'a mis à courir, finalement, que les soulèvements de la terre seraient invités à discuter avec les agriculteurs. Or, on sait aujourd'hui que le monde agricole et les associations, ce ne sont pas des rapports faciles. Est-ce que vous en voulez, justement, aux associations de protection de l'environnement, de vous pointer du doigt régulièrement?
Leur en vouloir, non. Après, c'est leur manière de faire souvent, ou leur façon d'exprimer les choses. Je pense qu'on peut aller plus dans la discussion. Et justement, si on pouvait leur expliquer, ou s'ils étaient peut-être plus ouverts, parce que je pense qu'un agriculteur est quand même ouvert avec tout ce qu'on a fait depuis de nombreuses années, s'ils étaient plus ouverts et qu'ils discutaient un petit peu plus avec le monde agricole, ils comprendraient que justement, l'agriculture française, ils devraient la préserver, essayer de l'appréhender différemment. Il ne faut pas qu'on disparaisse. Justement, si on disparaît, je pense que écologiquement, ce serait plus dramatique pour la France que si on restait en vie.
Avec aussi le consommateur, monsieur, madame, tout le monde, qui va dans son supermarché, qui aujourd'hui fait face à l'inflation, qui essaie de prendre des produits peut-être un petit peu moins chers. Est-ce que là aussi, il y a une discussion à avoir très rapidement avec la grande distribution? Parce qu'on a l'impression quand même que là aussi, l'agriculture est la variable d'ajustement avec cette grande distribution.
L'agriculture a toujours été la variable d'ajustement. Les grandes surfaces, oui, c'est vrai. Après, on ne peut pas en vouloir aux consommateurs. Il faut se mettre à sa place aussi. On est des consommateurs aussi, parce qu'on ne vit pas en autarcie sur nos exploitations. On va aussi faire nos courses. Évident que l'augmentation de l'énergie, l'augmentation des impôts, l'augmentation... Les gens sont obligés de faire une impasse sur quelque chose ou regarder quelque chose. Justement, il faut qu'on soit capable d'apporter aux citoyens, aux consommateurs, le produit qu'il veut, au prix qu'il souhaite. Alors, aller forcément chercher le produit le moins cher, comme le font les grandes surfaces, mais est-ce que c'est vraiment la faute des grandes surfaces? On a pu voir quand même qu'en fin d'année 2023, M. le maire demandait quand même aux grandes enseignes de limiter l'inflation et de proposer les produits les moins chers. On l'a vu, ça, quand même. M. Leclerc aussi demandait justement à M. le maire de l'autoriser à aller chercher les produits les moins chers, peu importe en Europe ou dans le monde. Pas sûr que ce soit vraiment les bonnes décisions. Maintenant, le citoyen, je conçois qu'il soit obligé, le consommateur, de faire attention à ce qu'il fait. Après, on nous parle souvent d'étiquetage, que les gens, s'ils voyaient vraiment l'étiquetage, je peux aussi comprendre que l'étiquetage est très très compliqué à comprendre pour le consommateur. C'est-à-dire qu'il faut retourner les barquettes, il faut regarder, notamment sur la viande, souvent Europe, alors qu'il suffit qu'il arrive en Europe pour qu'il change de conditionnement, qu'il devienne produit UE. Le consommateur est floué, c'est vrai.
Il nous reste trois petites minutes, j'aurais voulu vous entendre, Vincent Lambert, sur l'Europe, parce qu'aujourd'hui, on la pointe du doigt, l'Europe a un petit peu moins de 100 jours de l'élection européenne. Est-ce que là aussi, il va falloir que le gouvernement change un petit peu, si vous me permettez, je vais prendre un terme sportif, de braquer vis-à-vis de sa politique européenne en matière d'agriculture? Est-ce qu'il va falloir finalement que la France se fasse entendre?
Oh ben c'est évident, mais on a bien vu encore la semaine dernière que ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc je ne pense pas que le gouvernement a décidé de prendre les grandes décisions ou changer de braquet, comme vous le disiez. Mais malheureusement, je pense que si on veut que l'agriculture française perdure, et si on veut, même au-delà de ça, si on veut vraiment que le mouvement se calme, il va falloir quand même que la France tape un petit peu du poing sur la table et disent maintenant l'agriculture française, comme la CR le demande, l'exception agriculturelle comme on a fait avec l'exception culturelle, la France dise attention, on a une agriculture certainement la plus propre au monde ou l'une des plus propres au monde, il faut aussi qu'on soit écouté et qu'on comprenne que nous on a besoin de protéger notre agriculture, on ne peut pas laisser entrer des produits de n'importe où dans le monde sous prétexte qu'on a besoin de faire du libre-échange ou sous prétexte qu'il faut apporter moins cher pour le consommateur.
La colère paysanne est toujours là, on l'a compris. Dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, le mouvement ne s'est pas arrêté, on est bien d'accord. Hein, on est toujours dans un mouvement, même si on entend peut-être un petit peu moins. On va aller vers quoi? Des blocages, une colère qui continue à être là, à grandir peut-être?
La colère continue à grandir, c'est vrai que ça n'a pas été apaisé. Bon, les annonces, ça a été beaucoup d'annonces, mais il n'y a pas eu très peu d'actes. Donc c'est vrai que les agriculteurs sont toujours sur le qui-vive. Ce qui serait dramatique, c'est que les agriculteurs, vraiment, on est ras-le-bol, quoi, parce que ça fait quand même 5 semaines maintenant qu'ils sont sur le terrain. Notamment, cet accord qui a été signé semaine dernière encore, c'est pas forcément bon pour calmer tout le monde dans les campagnes. Je pense qu'il faudrait des choses plus concrètes, vraiment très prochainement, pour que les gens se disent, les agriculteurs se disent, bon, on a été compris, laissons un peu de temps maintenant pour que les choses se fassent, pour voir si ça va mieux dans nos exploitations, si tout reprend. Mais il ne faut pas qu'on arrive à amener le ras-le-bol dans nos exploitations, parce que c'est là que les choses sont plus difficiles à contrôler.
Alors, mouvement qui continue, si demain, il nous reste 30 secondes, si demain vous aviez quelque chose à dire au président de la République, au premier ministre, au ministre de l'Agriculture, M. Fesneau, vous lui diriez, prenez telle mesure, ce serait quelle mesure?
Première mesure, ce serait la rémunération des éleveurs, c'est-à-dire qu'il faut la rentrer dans tous les produits qu'on vend. On parle de prix plancher, mais ces prix planchers doivent comporter tous les produits, peu importe les filières. La rémunération de l'éleveur doit être intégrée dedans et surtout arrêter les accords de libre-échange, au moins pour le moment, ou utiliser ces fameuses clauses miroirs, mais vraiment les utiliser pour qu'on ne soit pas les grands perdants de cette agriculture mondiale.
Et de la rapidité dans l'exécution de ce qui est encore des promesses. Hein,
de la rapidité dans l'exécution de toutes ces promesses et toutes ces annonces.
Vincent Lambert, président de la coordination rurale des Côtes d'Armor, était avec nous ce matin. On a parlé d'agriculture et on continuera à le faire sur l'antenne de Bretagne 5. Les agriculteurs et leurs représentants sont évidemment les bienvenus au micro. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin et très belle journée.
Merci.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.